juin et septembre, la province du Sud-Kivu, elle seule, enregistrait environ 15 décès par semaine dus au coronavirus, selon les chiffres officiels. Et au cours de la même année, vous vous souvenez que la ville de Goma, capitale de la province du Nord-Kivu, a été déclarée épicentre national de la pandémie. J'avais fait un reportage sur la situation. Oui.
Si vous pouvez nous parler rapidement de, disons, comment est-ce que la situation sécuritaire a un peu été dans cette partie de la RDC, rapidement, avant qu'on ne passe à Idriss Fall.
Voilà, cette région est en proie à la sécurité depuis plusieurs années. Celle-ci est généralement causée par l'activisme des groupes armés qui sont bien sûr des dizaines et qui sont actifs dans la région. Et parmi les groupes actifs qui font l'actualité, il y a les groupes rebelles EDF, Armed Democratic Forces, d'origine ougandaise. Et depuis le début de l'année 2021, il ne se passe pas un mois, n'est-ce pas, sans qu'il y ait une attaque de ces rebelles contre la population.
D'accord.
Et leur mode opératoire est assez déplorable, car ils tuent la population au couteau et à la machette. Et
d'accord.
Des données récentes de l'agence...
On pourra revenir sur tout cela. Alors Idriss, comme on le voit, la sécurité est restée un grand défi pour les pays africains, que ce soit au Sahel, qu'en Afrique centrale, notamment dans l'est de la RDC. Et là, ce qu'on a vu en commun, c'est un peu la poussée de l'extrémisme dans ces deux parties.
Partout. Et je commencerai par le Mali, parce que tout est parti de là-bas. Et qu'à un moment donné, les djihadistes avaient même voulu avancer. Ils ont été bloqués en 2013. Mais maintenant, on a l'impression qu'en fait, ils se sont éparpillés un peu partout.
Seulement au Sahel, mais en plus.
Partout. C'est-à-dire ils sont partis au Burkina Faso. Ils opèrent dans l'ouest du Niger. Et que vous avez vu récemment, ils sont en train de descendre vers le Bénin. Et... donc ça fait peur lorsque on sait que nos armées ne sont pas forcément bien entraînées dans ce type de guerre asymétrique. On les laisse dans des camps et les gens viennent les trouver là-bas et les tuent. Pour l'Est du Congo aussi, c'est pareil. L'Est du Congo, depuis le lac Tanganyika jusqu'au lac Kivu, il y a beaucoup de groupes armés. Il y a autant de groupes armés que d'arbres dans la forêt équatoriale dans l'est du Congo. Et
donc
depuis,
on parle plus des ADF.
Même avant les ADF, Zadem pourra le dire. Les premières révoltes qu'il y a eu dans l'est, c'était dans l'est du Congo avec les Moulélé et tout ça. Donc, et ça continuait tout le temps. Les Maïmaï qui se pensent invincibles de prétendre défendre les populations, ce n'est pas le cas. Il y a eu les révoltes des Laurent Désiré Kabila, du RCD Goma. Et aujourd'hui, les gens font face à vraiment la barbarie, la violence des ADF. Mais il ne faut pas oublier un peu plus au nord aussi, il y a cette milice Mai Mai qu'on appelle Codeco qui prétend défendre les intérêts d'un groupe ethnique précis, alors que l'Ituri, c'est toujours Hema et Lendu, et généralement ça fait des milliers de morts. Donc je ne sais pas comment l'État va arriver avec ça.
D'accord, je repars à Ouaga. Lamine, en tant que journaliste, comment est-ce que vous avez vécu tout cela? Vous avez été sur le terrain plusieurs fois. Est-ce qu'il y a aussi un sujet qui vous a particulièrement marqué cette année?
Oui, Abdramane Dia, le sujet qui va nous marquer, c'est toute cette situation sécuritaire, c'est difficile. C'est vrai qu'on ne peut pas véritablement à l'intérieur du Burkina, il y a certaines zones qu'on ne peut plus avoir. Ce qui m'aura marqué durant cette année 2021, c'est que malgré ce contexte qui était difficile, le pays a pu tenir des grandes manifestations du continent qui est le FESPACO.
Le FESPACO, tout à fait.
Qui a vu des milliers d'invités, des milliers de festivaliers, plusieurs centaines de personnes, de professionnels du monde qui étaient réunis à Ouagadougou en octobre dernier pour vivre cet événement.
D'accord. On a juste quelques petits soucis de connexion avec Ouagadougou. Alors, Zanem, mais vous, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans la couverture de l'actualité cette année?
plusieurs points m'ont marqué, mais le sujet qui m'a beaucoup marqué est la déclaration de la fin de la 13e épidémie d'Ebola. Vous savez qu'après la déclaration de la 13e épidémie, les équipes de riposte se sont mobilisées pour vacciner la population, surtout les contacts des cas confirmés. Mais fort malheureusement, la campagne de vaccination n'a pas été accueillie correctement par plusieurs habitants. Il y avait même parmi les contacts des cas confirmés qui étaient réticents à se faire vacciner. C'est cette résistance d'ailleurs qui a fait que plusieurs observateurs craignent la propagation rapide du virus, chose qui pourrait faire plusieurs victimes. Alors quand j'ai appris la fin de la 13e épidémie, cela m'a beaucoup marqué, cela m'a beaucoup réjoui de voir que la région a été épargnée du pire.
D'accord. En tout cas, Idriss, on va quand même parler un peu des coups d'État. Certains même ont parlé de retour à la mode, notamment au Mali et en Guinée. Quelle est votre impression?
Et ne pas oublier aussi que ce qui s'est passé au Tchad aussi, c'est un coup d'État. On ne l'appelle pas comme ça, mais ça n'est un après la mort d'Idriss Déby. Le Mali, vraiment, c'est un cas atypique. C'est-à-dire qu'il y a eu un président renversé, Ibeka, et qu'il a été renversé deux fois, en fait, le monsieur Ibeka, et que donc l'homme fort du Mali, Kassim Goïta, il est là-bas et qu'il essaye. Et je ne crois pas qu'il y aura des élections, il tient des assises nationales. Et la CDAO aussi s'entête à vouloir tenir des élections presque impossibles au Mali. Le deuxième cas de figure, c'est la Guinée. La Guinée, depuis tout le temps, les Guinéens bravaient les soldats pour s'opposer au troisième mandat d'Alpha Condé. La CDAO était bien là, elle n'a rien dit. L'Union africaine était bien là, elle n'a rien dit. Et que donc, c'est la conséquence de ça que M. Alpha Condé a été renversé.
Ce ne sont pas forcément les mêmes cas dans chaque pays.
Ce n'est pas les mêmes cas, c'est sûr. Mais les coups d'État reviennent, qu'on le veuille ou non. Il y a quand même quelques éléments de progrès. Le Niger, qui est le pays qui fait face à deux fronts, le front du sud-est à Difa avec les Boko Haram et le groupe État islamique là, de l'autre faction, et lutte aussi dans l'Iptako où il y a des attaques meurtrières là-bas. Ce qui m'étonne quand même, pour toutes ces attaques, rarement j'ai entendu une revendication. Très rarement. Nous, on a supposé que c'était le groupe État islamique au Grand Sahara dont on a annoncé que son chef a été tué, Abu Adnan al-Sahrawi, mais les attaques continuent au Niger, au Mali, au Burkina Faso, mais rarement j'ai vu ces attaques-là revendiquées.
D'accord. Alors, Idriss, nous avons peut-être une minute avant de vous laisser partir. Vous êtes un des responsables de la rédaction. C'est peut-être, je dois profiter de l'occasion pour vous demander de dire un mot à tous ces correspondants qui, malgré les conditions sécuritaires et sanitaires difficiles, ont quand même nous ont permis de couvrir l'actualité comme on a pu.
Absolument. Bravo à Lamine, bravo à Zanem, bravo
à tous
les autres correspondants qui sont éparpillés en Afrique parce que vraiment, on a tout le temps été là pour couvrir les informations et c'est grâce à eux. Donc, vraiment, merci et on leur tire la chandelle, quoi. Et on vous souhaite aussi à tous et vos familles une excellente année 2022. Et pour finir avec une note gaie, allez, au Congo, Arsène va danser la rumba, au Sénégal, ils vont manger du tchèmoudjé.
En tout cas, merci beaucoup. Alors, merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. retrouver pour la seconde partie de Washington Forum et nous accueillons à présent deux reporters très dynamiques qui ont également couvert une variété de sujets tout au long de l'année. À Dakar, Alison Lekogo Fernandez et à Kinshasa, Anastasie Toudiech. Et avec moi ici en studio, Yacouba Ouedraogo, le monsieur sport de VOA Afrique ou le monsieur... Beaucoup de choses. Merci beaucoup. Alors, je démarre avec vous, Alison. L'actualité en 2021 a été marquée par le Covid-19, encore une fois, malheureusement. Au Sénégal, où vous vous trouvez, ce sont surtout des informations autour de la vaccination qui vous ont marqué, n'est-ce pas?
Oui, bonjour Abdou. Oui, la grande nouveauté cette année au Sénégal, c'était le démarrage de la campagne vaccinale en février dernier. Le Sénégal était l'un des premiers pays africains à lancer une campagne nationale avant même de recevoir les vaccins de l'initiative internationale COVAX. Le pays avait décidé d'utiliser en premier lieu 200 000 doses du vaccin chinois Sinopharm. Depuis, le Sénégal a reçu près de 4 millions de vaccins, mais au moins 200 000 doses ont été perdues face aux réticences de la population. Selon les chiffres des autorités, aujourd'hui, seuls 10% de la population en âge d'être vacciné a reçu les deux doses. Face à ce phénomène, l'État tente de faire bouger les choses en lançant une campagne de vaccination mobile dans certains quartiers, en organisant des causeries avec des relais au sein de communautés. Mais surtout, le Sénégal espère bientôt produire son propre vaccin. En juillet dernier, le président Macky Sall a signé un accord avec plusieurs partenaires internationaux pour lancer une usine de production de vaccins qui sera hébergée par l'Institut Pasteur et qui devrait voir le jour à la mi-2022. L'objectif est notamment de réduire la dépendance du continent envers l'extérieur, car aujourd'hui l'Afrique importe 99% de ses besoins en vaccins.
D'accord. Alors, Yacouba, l'actualité sportive a également été très riche. Pour parler un peu des éliminatoires, on va commencer par les éliminatoires de la Coupe du Monde.
Tout à fait, Abdou. 40 équipes réparties dans 10 poules. Et donc, ces éliminatoires, l'avant-dernière phase a eu lieu en septembre et en octobre, notamment avec ces finales, on va dire, dans certains groupes, avec la consécration des 10 pays qualifiés pour les barrages, ce qu'on appelle les barrages qui auront lieu en mars 2022, et pour désigner les 5 tickets définitifs pour cette Coupe du Monde Qatar 2022.
D'accord. Alors, je crois qu'on a Anna. Anastasie, on parlait un peu de l'actualité culturelle à Kinshasa et en RDC. Qu'est-ce qui vous a un peu marqué? Qu'est-ce qui a fait l'actualité en RDC cette année sur le plan culturel?
Bonjour à toutes et à tous, à tous nos téléspectateurs et toutes nos téléspectatrices, et bonjour à vous, cher Abdou, ainsi qu'à mon cher Yacouba, qui est avec vous. Écoutez, plutôt que de plonger dans une année culturelle qui a été riche en rebondissements, notamment à cause de la pandémie de Covid, j'ai envie de me focaliser sur l'événement, deux cadeaux de Noël offerts à la RDC. Dans la même semaine, c'est suffisamment rare pour être souligné, le prix découverte RFI et l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine culturel immatériel mondial.
Absolument, je crois qu'on en avait besoin, toutes ces bonnes nouvelles. La rumba et également le prix RFI, effectivement, qui est allé à un jeune Congolais. Dites-nous, Alison, vous avez... toutes les deux, Alison et Anastasie, travaillaient sur des sujets qui ont non seulement touché les téléspectateurs, qui ont été traduits dans d'autres langues ici à la VOA. Vous avez été marqué, j'imagine, sur le plan personnel par ces sujets. Alison, qu'est-ce qui vous a marqué sur le plan personnel?
Oui, alors moi j'aime bien dénicher de jolies histoires et j'ai été marquée par Yaïs Wadoufal, qui est une jeune femme, une Sénégalaise, qui n'a que 26 ans et qui est aujourd'hui à la tête d'une usine de recyclage de pneus usagés qui fait travailler 30 personnes. Tout a commencé alors qu'elle n'était encore qu'étudiante, avec son amie qui est aujourd'hui son associée. Elle se lance dans un projet d'études dans le recyclage de pneus et ça commence avec de tout petits moyens sur la terrasse de leurs parents, avec le hachoir à viande de leurs parents. Entre-temps, le chemin a été semé d'embûches pour deux jeunes femmes portant un projet industriel dans un milieu essentiellement masculin. C'est ce qu'elle m'a raconté lors du reportage. Mais voilà, ces deux jeunes femmes sont parvenues à construire leur usine Sainte-Soline grâce aux 200 millions de francs CFA qu'elles ont reçus d'un fonds d'investissement destiné à encourager l'entrepreneuriat féminin en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, elles transforment les pneus usagés en différents revêtements de sol, aires de jeux pour enfants, terrains de basket et même en gazon synthétique. Elles sont les premières dans le pays à proposer du granulat répondant aux normes de la FIFA.
En tout cas, un sujet qui a fait un tabac sur les réseaux sociaux avec plus d'un million de vues. Et votre coup de cœur, un peu, avant de vous laisser partir, Alison?
Ah ben mon coup de cœur, c'est pour Yaïs Wanoufal. Je pense qu'elle mérite ce coup de cœur, à la fois pour son engagement écologique et aussi pour sa détermination, pour gérer une usine de 30 personnes avec du matériel qui coûte beaucoup d'argent et qu'elle fait tourner avec beaucoup de détermination.
En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage pour l'année 2022. Excellent boulot. Et vous, Anastasie, qu'est-ce qui vous a marqué sur le plan personnel? C'est quoi aussi votre coup de cœur?
Mon coup de cœur, ce n'est pas une personne, c'est une génération, Abdou. C'est ce que les sociologues appellent Gen Z, la génération Z. Ces jeunes gens nés entre 1997 à peu près et 2010. Dans les pays développés, ces jeunes gens sont la minorité. En RDC, où plus de 60% de la population a moins de 30 ans, ils sont la majorité. Et ils doivent, ces jeunes gens de la Gen Z, composer avec une culture où c'est le plus âgé qui a raison, et leur dynamique propre qui est de bousculer les codes et d'avancer. Ils sont sans complexe, ils sont nés en plein dans le numérique, ils sont décomplexés, ils sont autodidactes, ils sont insolents, ils sont très paradoxaux parce qu'à la fois très généreux et en même temps très business, individualistes aussi, véritablement, et ils rêvent haut et fort. Je pense notamment à cette jeune femme Dorcas Mbembe dont j'ai fait le portrait, qui a eu beaucoup de succès sur les réseaux sociaux.
Absolument.
Et qui aujourd'hui est en Allemagne. Discuter justement de breveter à l'international son invention qui consiste à créer des sacs en papier à base de fibres de bananier recyclées. Extraordinaire jeune femme qui a 25 ans. Je pense à une jeune activiste dont je ferai le portrait pour Africa, pour Voice of America bientôt, qui est survivante de violences sexuelles, qui elle-même est devenue activiste et qui a mis en place une unité de production de serviettes hygiéniques recyclables pour les jeunes femmes.
Alors, avant de vous laisser partir, Anna, quelles sont vos projections pour 2022? Vous voyez une actualité moins politique, plus culturelle? C'est ce que vous souhaitez pour la RDC? Il faut quand même qu'on parle des bonnes nouvelles.
La vie des Quinois dans la vie des Quinois, la culture et la politique sont intimement liées. C'est pour cela que la victoire d'Alèche, le prix découverte RFI Alèche, a beaucoup de sens. Puisque aujourd'hui, Abdou, pour comprendre ce que vivent les Quinois, les Congolais en général et les Quinois en particulier, eh bien, ce sont les rappeurs qu'il faut écouter, parce que ce sont véritablement des chroniqueurs, ils frappent fort, ils frappent juste, et le tout avec la musicalité qu'on connaît aux Congolais. Donc, on peut s'attendre à une année 2022 à la fois riche culturellement et riche politiquement, et les deux sont mêlés avec un peu de censure au milieu, des tensions, des pressions et de l'humour, mais beaucoup de vigilance de la part du peuple congolais lui-même et des artistes plus spécifiquement.
D'accord, merci beaucoup Anastasie. Je peux dire, sans risque de me tromper, que vous manquez à toute l'équipe de VOA Afrique ici, n'est-ce pas Yacouba?
Tout à fait, notre Anna.
Absolument. Alors, on va terminer, Yacouba, un peu avec le sport. On parlait un peu des éliminatoires de la Coupe du Monde, mais il y a eu aussi un grand événement cette année, c'est la NBA Africa.
Oui, tout à fait, Abdou. Hein, la Basketball Africa League qui a finalement eu lieu à Kigali, au Rwanda. On se rappelle, 12 équipes de 12 pays différents se sont affrontées dans un contexte difficile lié à la pandémie. À l'arrivée, ce sont des matchs, bien sûr, de haute qualité. Une organisation parfaite avec le sacre du Zamalek d'Égypte devant l'US Monastir de la Tunisie en finale.
Et les JO aussi, l'Afrique n'a pas été
Les JO, peut-être, dont les résultats ont été un peu moins bons par rapport à Rio 2016, mais l'Afrique s'en est sortie quand même avec 37 médailles. Il y a eu des sensations, on va se rappeler de cette première médaille olympique remportée par le Burkina Faso à travers Hugues Fabrice Zango au triple saut. Il y a la Namibienne, Christine Mboma, qui a arraché l'argent aux 200 mètres, ce qui était énorme parce qu'elle n'a que 18 ans. On se rappelle aussi de ce Tunisien de seulement 18 ans, Ahmed Afnaoui, qui qui a arraché surtout l'or, aux 400 mètres nage libre.
Alors, on ne peut pas terminer sans parler de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue en janvier.
Oui, beaucoup de politique autour du football maintenant, plus de politique d'ailleurs que de football. On espère que ça aura lieu. On espère que les Africains auront droit à cette belle fête, mais il faut le reconnaître, il y a beaucoup de bisbilles. Et Cameroun, bien sûr, pour la CAN, ça semble un peu maudit quand même. 2019, on se rappelle, arraché à la dernière minute, attribué à l'Égypte. Et cette année encore, beaucoup de bruit. Et ça n'augure pas du bon pour le football africain.
Alors, quelle est votre interprétation de toute cette polémique autour de cette fameuse lettre des clubs européens?
Je pense que, en fait, c'est une lettre qui exprime tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Je pense notamment aux responsables de la FIFA qui, jusqu'à présent, mettent la pression pour une CAN tous les 4 ans et une Coupe du Monde tous les 2 ans et donc l'inverse. Ça ne rencontre pas l'assentiment, bien sûr, de beaucoup d'Africains, mais il faut le reconnaître, c'est beaucoup d'ingérence. On se rappellera de cette élection du Sud-Africain Patrice Motsepe à la présidence de la CAF en remplacement de Ahmad Ahmad, la défection du Sénégalais Augustin Senghor, la défection de l'Ivoirien Jacques Anouma, la défection du Mauritanien Ahmed Yahia et finalement Motsepe, seul candidat, le candidat d'Infantino qui passe. Et donc il faut le reconnaître, il y aura beaucoup de pression et si les Africains veulent s'en sortir, bien sûr, il faut faire barrage. Oui, tout à fait, des suspicions bien sûr. À tort ou à raison, mais je pense que beaucoup de suspicions fondées de la part de beaucoup de rumeurs qui de plus en plus révèlent beaucoup de choses. Je pense qu'il appartiendra aux Africains, s'ils veulent que leur football soit beaucoup plus exprimé sur les pelouses que dans les couloirs, il faut beaucoup d'unité.
Alors, je sais que vous n'aimez pas les pronostics, mais quand même, en 10 minutes, quels sont les grands favoris de cette CAN?
L'Algérie reste la grande favorite de cette CAN. L'Égypte pourrait revenir, mais elle n'est pas très en forme. Le Cameroun également joue à domicile et je pense que les Lions Indomptables veulent véritablement remporter cette CAN-là à domicile. D'accord. Eh bien, je pense l'Algérie d'abord, le Cameroun ensuite.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup Yacouba. C'est la fin de ce dernier Washington Forum de l'année 2021. L'occasion pour moi de vous remercier, en tout cas, remerciez-vous les fidèles auditeurs et téléspectateurs. Merci à nos télépartenaires sur le continent, à tous ceux qui contribuent chaque semaine, semaine après semaine à cette émission, nos correspondants, nos confrères de la rédaction. C'est surtout l'occasion de remercier ceux qui travaillent directement et régulièrement sur cette émission. Je commence par Salwa Diafari, qui a été la productrice exécutive de VOA Afrique depuis quelques années et qui va donc diriger toute la division Afrique de VOA. Merci à Gabi Dorsil pour sa vigilance sur le contenu éditorial de Washington Forum et des autres programmes. Il y a aussi Lionel Gaïma, le producteur de cette émission, pour son professionnalisme. Blanche Sanou, qui est également productrice à VOA Afrique TV. Georges Léonard Seignon, toujours au rendez-vous au prompteur et à 13h Matando pour les montages. Nous espérons que vous serez encore nombreux à nous suivre en 2022. À très bientôt. Au revoir. De VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture, nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.